Donc bonjour tout le monde. Donc pour l'après-Noël, je nous ai réservé, disons, un message qui touche un peu encore à l'évangile de Luc. Donc on est un peu dans la continuité de la période de la nativité. Donc nous allons lire ensemble en Luc 2, les versets 21 à 38. Luc 2, versets 21 à 38, nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilés. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. J'ai intitulé ce message « Que faisons-nous après Noël ?» Que faisons-nous après Noël. Nous venons de célébrer Noël de différentes façons, dans nos familles, avec des amis, des fois même seuls. Nous avons contemplé la naissance du Fils de Dieu, le miracle de l'incarnation, la venue du Messie promis depuis des siècles. Mais une question se pose maintenant. Que faisons-nous de Noël après Noël? Que faisons-nous de Christ après sa naissance? Que devient la joie du 25 décembre lorsque nous entrons dans les jours ordinaires de l'année? Donc Luc, inspiré par l'Esprit, nous conduit non pas vers une scène qui est idyllique, mais vers le temple. Lieu de la loi, lieu du sacrifice, le lieu de l'attente. Et là, deux croyants, Siméon et Anne, nous montrent comment une foi authentique répond à la venue du Messie. Ce texte nous enseigne comment accueillir Christ, comment le reconnaître, comment son évangile révèle nos cœurs et comment l'Église est appelée à annoncer cet évangile. Et donc mon premier point vont être des versets 21 au verset 24. Un Christ accueilli dans l'obéissance et dans l'humilité. Et donc, d'ici, nous voyons que Luc ouvre ce passage par une série de détails que nous pourrions facilement considérer comme secondaires. Nous avons ici une circoncision, nous avons une présentation au temple et nous avons une offrande qui est modeste. Pourtant, ces versets sont d'une profondeur remarquable. Car il nous relève comment le Fils éternel de Dieu entre dans l'histoire du salut. Au verset 21, nous lisons que le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et donc, dès le début de sa vie terrestre, Jésus est placé sous la loi de Dieu. Jésus est placé sous la loi de Dieu. Lui qui est Dieu. Lui qui était sans péché, lui qui est sans péché, il accepte le signe de l'alliance qui est donnée aux pécheurs. Cette circoncision n'était pas nécessaire pour lui. Elle n'était pas nécessaire pour Jésus. Par contre, elle était nécessaire pour nous. Lui, il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu. Il est Dieu. L'apôtre Paul éclaire cette vérité lorsqu'il écrit en Galates 4, des versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et donc Christ n'est pas seulement venu mourir à notre place, il est venu vivre à notre place. Toute sa vie a été une vie d'obéissance parfaite, active, continue, depuis la crèche jusqu'à la croix. Il a obéi parfaitement, activement à la loi de son Père. Et c'est ce que nous appelons dans la foi réformée l'obéissance active de Christ, sans laquelle il n'y aurait pas de justice à nous imputer. Sinclair Ferguson écrit avec justesse « Jésus n'a pas commencé à obéir au moment où il a porté la croix. Il a obéi toute sa vie afin que sa justice soit parfaite et complète pour ceux qu'il est venu sauver. » Et Luc poursuit au verset 22 « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Jésus est présenté au temple comme tout premier-né. Il est venu parmi nous. Il a obéi au Père. Il est né dans une étable. Il s'est fait chair. Il a obéi comme ce que le Père lui demandait. Et au verset 23, nous voyons que il est le véritable premier-né. Jésus est le véritable premier-né, celui auquel tous les autres pointent, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né ne sera consacré au Seigneur. Et cette consécration annonce déjà une vérité profonde. Celui qui est consacré ici sera offert plus tard en sacrifice. Et donc, dès le début, on peut dire que l'ombre de la croix resplendit sur la crèche. L'ombre de la croix plane sur la crèche. La présentation de Jésus au temple nous rappelle que sa venue n'était pas simplement une naissance miraculeuse, mais le commencement de sa mission rédemptrice. Et Luc insiste également ici sur l'offrande qui a été apportée. Au verset 24, « Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. » Et nous voyons en Lévitique 12, verset 8, que cette offrande est celle des pauvres. Cette offrande qu'ils ont apportée au temple est l'offrande des pauvres. Le Fils de Dieu ne naît pas dans une abondance extrême. Le Fils de Dieu ne naît pas dans la richesse. Mais il partage la condition des humbles. Il vit dans l'humilité et non dans la gloire. Mais il est le roi glorieux. Saint Augustin méditait cette humiliation volontaire lorsqu'il écrivait qu'il a été enveloppé de l'ange. Lui qui revêt le ciel de nuée, il a été porté dans les bras d'une mère, lui qui soutient l'univers. Ce Christ humble et obéissant nous enseigne comment l'accueillir véritablement. Accueillir Christ ne signifie pas simplement célébrer sa naissance, ni éprouver de l'émotion devant la crèche. Accueillir Christ, selon l'Écriture, signifie se soumettre à son obéissance parfaite et reconnaître que nous n'avons aucune justice propre à offrir à Dieu. En Philippiens 2, verset 8, nous lisons « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Mais cette humiliation commence ici. Cette humiliation a commencé à la crèche, avant la croix. Après Noël, l'Église est tentée de garder un Christ attendrissant, un Christ qui est beau, un Christ inoffensif, un Christ qui est presque décoratif. Mais Luc nous rappelle que le Christ que nous célébrons est le Seigneur de l'Alliance, venu accomplir la loi que nous avons violée. Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Ainsi, recevoir Christ, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Que seule son obéissance parfaite peut nous sauver et que cette obéissance appelle notre obéissance reconnaissante envers son œuvre. L'obéissance du croyant n'est pas la cause du salut, mais le fruit inévitable de l'accueil du Christ. Nous obéissons parce que Christ a obéi, parce que Christ s'est soumis à son Père. Il s'est humilié Il a obéi activement de la crèche jusqu'à la croix. En ces temps après Noël, l'Esprit nous appelle donc à une foi plus profonde, une foi qui est plus sérieuse, une foi qui est plus soumise, non une foi qui est sentimentale, mais une foi qui s'incline devant le Christ humble. Le Christ que nous accueillons à Noël est aussi le Seigneur auquel nous appartenons toute l'année, tous les jours, pas seulement à Noël, mais après Noël. Mon deuxième point, les versets 25 au verset 32. Et donc, après nous avoir montré l'obéissance humble du Christ, Luc nous présente maintenant la réponse de la foi. Cette foi n'est pas spectaculaire. Et elle n'est pas visible aux yeux du monde non plus. Les gens du monde ne le voient pas. Elle se manifeste dans la vie d'un homme qui est âgé ici, presque anonyme, qui s'appelle Siméon. Nous lisons verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Luc ici insiste immédiatement sur un point fondamental ici. La reconnaissance du Christ est l'œuvre de l'Esprit. Siméon n'est pas décrit comme un théologien renommé, ni comme un dirigeant religieux influent. Il est simplement un homme juste, un homme qui est pieux, et un homme surtout très important qui est dans l'attente. Il attend. Il est dans une attente ici. Et on peut remarquer que cette attente ici n'est pas passive. Elle est nourrie par les promesses de Dieu, par l'écriture, par la prière. Siméon attend ce que les prophètes ont annoncé en Ésaïe 40, verset 1. La consolation d'Israël. L'attente de Siméon est celle d'un homme façonné par les promesses de Dieu. Non par des circonstances qui sont visibles. Pas sur des circonstances humaines, mais sur les promesses de Dieu pour la consolation d'Israël. Et Luc ajoute au verset 26, « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Et cette révélation ne vient pas de la chair. Et cette révélation ne vient pas du sang. Elle vient de Dieu seul. Elle ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu seul. Ici, Luc nous enseigne une vérité essentielle. Personne ne reconnaît Christ par ses propres capacités naturelles. Personne. Personne ne reconnaît Christ par ses propres forces, ni par son intelligence. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 2, verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Et donc, sans l'œuvre souveraine du Saint-Esprit, Jésus demeure un enfant ordinaire, sans gloire, sans attrait particulier. Mais lorsque l'Esprit ouvre les yeux, le salut devient visible là où le monde ne voit rien. Matthieu 16, verset 17, nous lisons, Jésus, reprenant la parole, lui dit à Simon, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, qu'il était le Fils de Dieu. » Lorsqu'on lui posait la question, on leur posait la question, « Qui croyez-vous que je suis ?» Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu qui révèle. Et Luc poursuit au verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Même la rencontre de Simeon avec Jésus n'est pas le fruit du hasard. Ça a été initié par l'Esprit. Elle est dirigée par Dieu. Simeon prend alors l'enfant dans ses bras et ce geste simple devient une confession profonde. Au verset 29, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Pourquoi ? Parce qu'il a vu la consolation. Et là, il peut partir en paix. La paix de Simeon ne repose pas sur une amélioration des circonstances d'Israël. Non. Elle repose sur une personne. Elle repose sur l'enfant qu'il avait devant lui, Jésus-Christ. Il ne dit pas « Mes yeux ont vu la paix, mais mes yeux ont vu ton salut. » Simeon comprend que le salut n'est pas une idée, ni un programme, ni une réforme politique. Le salut est incarné. Psaume 3, verset 9. « Car le salut vient de l'Éternel. » Et de nulle autre personne. C'est de l'Éternel dont vient le salut. Et il proclame ensuite une vérité révolutionnaire pour son époque. Des versets 31 au verset 32. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Le salut n'est pas réservé à un groupe ethnique ou une religion quelconque. Il est offert aux nations, selon la promesse qui a été faite à Abraham, en Genèse 12, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc ce passage nous enseigne que reconnaître Christ n'est jamais une question de proximité religieuse. Mais c'est une œuvre de la grâce. C'est de la pure grâce. On peut reconnaître la loi. On peut connaître la loi sans reconnaître le Sauveur. Oui. On peut connaître l'étendue de la loi, mais sans connaître le Messie, le Sauveur qui est enseigné dans la loi. Mais lorsque l'Esprit ouvre les yeux, même un nourrisson révèle la gloire de Dieu. En Jean 20, verset 29, nous lisons « Heureux ceux qui n'ont pas vu. » Non, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous croyons au Fils de Dieu. Nous croyons qu'il nous a sauvés. Nous croyons qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous croyons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes justifiés. Après Noël, cette vérité demeure. Nous ne suivons pas Christ parce qu'il nous touche émotionnellement, mais parce que Dieu nous a donné des yeux pour voir son salut. La foi chrétienne est une foi qui est reçue. Ce n'est pas une foi qui est produite. Elle est un don, elle n'est pas un effort personnel. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ainsi, après Noël, l'Église est appelée non seulement à célébrer la venue du Christ, mais à demeurer dans une foi qui est humble, une foi qui est dépendante à son Sauveur, une foi qui est éclairée par l'Esprit. Jusqu'au jour, comme Siméon, nous pouvons dire, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Amen. Mon troisième point, les versets 33 au verset 35. Un Christ qui révèle les cœurs et divise l'humanité. Et donc, après la confession de foi de Siméon, Luc nous conduit ici vers une parole qui est plus grave, qui est plus solennelle, et même qui peut nous déranger aussi. Noël nous parle souvent de la paix. Noël nous parle de joie. Noël nous parle de lumière. Mais tout cela est vrai. Parce que la lumière, c'est Jésus. Mais Luc nous rappelle ici que la venue du Christ n'est jamais neutre. Au verset 33, il dit « Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui ». Ici, l'admiration est légitime. Dans cette attente, Siméon admirait, adorait son Sauveur qui était venu pour la consolation d'Israël. Mais l'admiration à elle seule ne suffit pas. Elle doit conduire à une réponse qui est profonde. Parce que l'enfant qui est admiré sera bientôt le Christ qui confronte. Siméon bénit Joseph et Marie, puis adresse une parole prophétique à Marie. Au verset 34. « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe, qui provoquera la contradiction. » On passe de l'admiration au jugement, on dit, disant, à la confrontation, la contradiction. Et vous voyez un peu le scénario d'un enfant qui naît, d'un nouveau-né qui naît. On est dans l'admiration d'un enfant, d'un bébé qui vient au monde. Et qu'on puisse entendre de telles choses d'un bébé. Je pense que pour les parents, ça part, ça peut choquer. Qu'un enfant va apporter la contradiction. Et ces paroles brisent toute illusion d'un Messie consensuel. Le Christ ne vient pas simplement embellir nos vies ou renforcer nos convictions existantes. Il vient les juger, il vient les renverser et il vient les transformer. Ici, premier point, j'ai trois points ici. Dans cette troisième partie, où nous voyons que Siméon mentionne que Jésus est le Christ qui fait tomber et relever. Siméon annonce que Jésus sera une cause de chute et de relèvement. La chute, pour ceux qui s'accrochent à leur propre justice, ceux qui s'accrochent à leur propre orgueil, pour ceux qui s'accrochent à une autosuffisance. La chute pour ceux qui ne dépendent pas de leur sauveur. La chute pour ceux qui ne se confient pas en leur Seigneur et leur Sauveur. Et lorsqu'il parle de relèvement, c'est pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et s'abandonnent à la grâce. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Cette image est reprise par Jésus lui-même. En Matthieu 21, 44, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et Richard Phillips écrit que Jésus n'est jamais simplement ajouté à une vie déjà bien ordonnée. Il la renverse afin de la reconstruire sur un fondement nouveau. Amen. Ainsi, après Noël, la question n'est pas « As-tu admiré Jésus ?» Mais « Est-ce que tu t'es humilié devant lui ?» Est-ce que tu t'es humilié devant Jésus ? Et Jacques, en Jacques 4, 6, nous lisons Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Approchons-nous de notre Seigneur, de notre Sauveur avec humilité, avec révérence. Parce que c'est lui qui va nous relever. Lui nous connaît. Il connaît nos chutes, il connaît nos combats, il connaît nos défis quotidiens. Il sait de quoi nous avons besoin. Il le sait parfaitement. Humilions-nous devant le trône de la grâce. Et Simeon continue en parlant de Jésus comme un Christ qui provoque la contradiction et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Verset 34. Le Christ est un signe envoyé par Dieu, mais un signe contesté, qui est rejeté et qui est combattu. Jésus a été combattu. Il a été rejeté par nous, alors qu'il est venu pour nous sauver. Nous l'avons rejeté, nous l'avons combattu, nous l'avons crucifié sur l'infâme bois. Il est lumière, mais cette lumière révèle les ténèbres. Jésus révèle les ténèbres qui sont cachées au plus profond de nous. Et les ténèbres n'aiment pas être exposées. Jean 3, verset 19, nous lisons « La lumière est venue dans le monde. » Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus est venu dans le monde. Nous avons préféré vivre dans l'obscurité que de le suivre. Nous l'avons combattu et nous l'avons cloué à la croix. Jésus ne peut être ignoré. Il suscite soit l'adoration, soit l'hostilité, mais jamais l'indifférence durable. Et cette contradiction s'est manifestée tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Rejet par les chefs religieux, incompréhension des foules, abandon par ses disciples, condamnation par les autorités. Et cette contradiction continue aujourd'hui aussi. En 2 Timothée 3, verset 12, nous lisons « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Se dire chrétien, ce n'est pas se dire que nous n'aurons pas d'épreuves. Nous allons vivre dans un petit nuage. Dieu nous protège, rien ne nous arrivera. Jésus a été humilié, il a été confronté, il a été abandonné. C'est exactement ce qui va nous arriver aussi. Troisièmement, Siméon nous parle d'un Christ qui révèle les pensées du cœur. Et donc il ajoute une parole qui est encore plus personnelle à Marie. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur soient révélées. Cette épée ici annonce la souffrance de Marie. Elle qui a vu son fils sur la croix. Ce serait une souffrance pour n'importe quelle maman de voir son fils cloué sur une croix. Et tout en sachant de surcroît qu'il est innocent. Mais elle annonce aussi une vérité universelle. La croix révèle ce que les cœurs aiment réellement. Devant le Christ crucifié, certains se répandent, d'autres se moquent, d'autres détournent leur regard. Saint Augustin disait avec profondeur, « Le même Christ est chute pour l'orgueilleux et relèvement pour l'humble. » La croix révèle si notre foi repose sur Dieu ou sur nous-mêmes. Nous lisons en Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et donc après Noël, nous ne pouvons pas rester dans une foi qui est vague, une foi qui est sentimental. Le Christ qui est né est aussi le Christ qui juge. C'est le Christ qui sauve et c'est le Christ qui révèle et qui relève. Il nous appelle à examiner nos cœurs. Avons-nous reçu Christ comme sauveur ou simplement comme un symbole? L'avons-nous reçu comme notre Dieu ou comme un sentiment qui est juste éphémère, un sentiment de fête pendant les temps de Noël? Est-ce que pendant Noël, ce Christ qui est né, il est réellement notre consolation? Est-ce que nous acceptons sa seigneurie ou seulement ses bienfaits? Est-ce que nous aimons la lumière ou préférons-nous encore marcher dans les ténèbres? De Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Noël n'est pas seulement une célébration, c'est une révélation. Et cette révélation conduit soit à la repentance et à la vie, soit au rejet et à l'endurcissement. Mais Luc ne s'arrête pas sur cette gravité. Après avoir montré un Christ qui révèle et qui divise, il nous présente une réponse fidèle et persévérante. C'est celle d'Anne qui, après avoir reconnu le Messie, elle n'a pas pu garder le silence. Mon dernier point, des versets 36 au verset 38. Et donc, ici, Luc introduit, après Siméon, un second témoin. Il ne s'agit pas ici d'un personnage secondaire ou décoratif. Non. Anne occupe une place essentielle dans le récit, car elle incarne la réponse fidèle et persévérante du peuple de Dieu à la venue du Messie. Nous lisons au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Et ici, on peut remarquer que Luc prend le soin de marquer son identité, ici. Son âge et son parcours de vie. C'est-à-dire que Anne, ici, n'est pas une figure idéale, mais une femme qui est marquée par l'épreuve. Anne est marquée par l'épreuve. Elle est veuve depuis longtemps. Elle est âgée, elle est discrète. Pourtant, elle est riche spirituellement. Nous allons voir ici en Anne une foi qui est enracinée dans la persévérance. Luc précise ici, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Anne n'a pas quitté Dieu après les pertes et après les déceptions. Elle n'a pas quitté son Dieu. Elle a persévéré. Elle est restée fidèle. Elle ne s'est pas retirée dans l'amertume. Au contraire, elle s'est enracinée dans la présence de Dieu. Nous lisons au verset 37, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Ça veut dire ici qu'elle était tous les jours au temple. Et nous venons quand à l'église? Est-ce que nous prions au moins tous les jours? Non. Est-ce que nous lisons notre Bible tous les jours? Non. Mais Anne ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Anne nous rappelle que la véritable piété n'est pas spectaculaire. Elle est constante, elle est silencieuse, elle est fidèle. Saint Augustin écrivait que Dieu forme ses serviteurs non seulement par les consolations, mais par de longues attentes. Par de longues attentes. Quand on parle de longues attentes, ça peut être long. Et cette femme avait plus de 80 ans. Mais elle attendait de voir la consolation arriver. Elle persévérait. Elle était dans l'attente. Tous les jours, elle était au temple. Elle jeûnait, elle priait. Et dans une culture qui valorise ici, où nous sommes, l'immédiateté, nous voulons tout, tout de suite. Anne nous enseigne que l'attente peut être un acte de foi. Attendre peut être un acte de foi. Nous lisons Lamentations 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et deuxièmement, nous voyons une reconnaissance immédiate du Christ. Luc poursuit au verset 38. Étant survenue à cette même heure, elle louait Dieu. Anne n'a pas besoin d'un long discours ou d'un signe spectaculaire. Elle reconnaît le Messie. Pourquoi? Parce que son cœur est préparé depuis. Parce qu'elle communie avec son Dieu. Tous les jours. Elle a pu voir le Messie. Elle a pu le reconnaître. Et ça n'a pas, il n'y a pas eu besoin de spectacle ou de chant, mais c'était dans le silence. Elle a reconnu parce que elle avait gardé cette communion constante, persévérante avec son Dieu. Sinclair Ferguson écrit que une vie façonnée par la prière est une vie prête à reconnaître l'œuvre de Dieu lorsqu'elle se manifeste. La louange d'Anne n'est pas une réaction émotionnelle passagère. Non. Elle est le fruit d'une espérance qui est là depuis de longues attentes, de sa communion avec son Dieu. Ésaïe 40, verset 31, nous lisons « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Dans cette attente, la prière constante, sa présence au temple, cette persévérance renouvelait ses forces dans cette attente qui était tellement longue. Troisièmement, une annonce qui découle naturellement de la foi. Et Luc ajoute immédiatement, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne ici ne garde pas cette joie pour elle-même. Elle ne la garde pas pour elle. La foi authentique conduit toujours au témoignage. Elle s'est empressée immédiatement d'annoncer son Sauveur. L'annonce de l'Évangile n'est pas d'abord une stratégie, mais un débordement naturel de foi. C'est vrai qu'on peut mettre en place des plans pour parler de Dieu, mais tout cela découle de la foi, découle de notre relation avec notre Dieu. Anne parle à ceux qui attendent. Elle discerne que Dieu a préparé des cœurs réceptifs. Romains 10, verset 14, nous lisons « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Nous avons besoin de déborder de foi, de passer du temps avec notre Dieu dans une communion constante, persévérante, dans la prière. Et c'est de cette façon que nous le connaissons encore plus. Et c'est de cette façon qu'avec notre foi, nous sommes appelés à témoigner de notre Dieu. Anne nous montre ce que doit être l'Église après Noël. Une Église persévérante dans la prière, une Église attentive à l'œuvre de Dieu. Une Église qui annonce Christ fidèlement. Saint Augustin disait que l'Église ne croit pas par la force, mais par le témoignage fidèle de ceux qui ont vu le Christ. Par le témoignage fidèle de ceux qui ont vu le Christ. Anne nous rappelle que l'annonce de l'Évangile n'est pas réservée à une élite. Ce n'est pas une spécialité pour les uns et non pour les autres. Elle est confiée à tout le peuple de Dieu. Acte 1, verset 8, où nous lisons « Vous serez mes témoins ». Nous sommes ces témoins. Et nous sommes appelés à proclamer sa gloire et annoncer cette bonne nouvelle. Après Noël, l'Église n'est pas appelée à se replier sur la nostalgie des fêtes. Elle est appelée à annoncer Christ au monde avec persévérance, avec humilité et avec espérance. Anne n'a pas vu la croix, mais elle a reconnu le Sauveur. Nous, nous voyons la crèche et la croix et le tombeau vide. En Jean 1, Jean 4, verset 19, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés. Si nous aimons la crèche, c'est parce qu'il nous a aimés en venant parmi nous. Pour finir, Luc ne termine pas son récit, par un chant, ni par une émotion, mais par une réponse de foi. Après la crèche, après le temple, après la parole prophétique, une question demeure pour chacun de nous. Que faisons-nous de Christ qui est venu? Nous avons chanté les chants de Noël. Nous avons célébré ensemble. Mais que faisons-nous de Christ qui est venu? Siméon peut s'en aller en paix, non parce que sa vie a été facile, mais parce que ses yeux ont vu le salut de Dieu. Anne peut parler de Jésus à tous, non parce qu'elle a tout compris, mais parce qu'elle a reconnu le Messie promis. Et nous, après Noël, nous avons vu que Jésus est venu en toute obéissance pour accomplir la loi à notre place. Il est reconnu par la foi, donné par l'Esprit. Il révèle les cœurs et appelle à une réponse réelle. Et il est annoncé par une Église persévérante. Noël n'est donc pas une parenthèse enchantée dans l'année du chrétien. Ce n'est pas juste une période où nous célébrons Christ, sa venue parmi nous. C'est un point de départ. Celui qui est né dans l'humilité est aussi celui qui règne dans la gloire. Celui qui a été porté dans les bras d'une mère porte aujourd'hui son Église. Il soutient son Église. Il aime son Église. Celui qui est venu une première fois reviendra pour établir pleinement son royaume. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et après Noël, il est facile de conserver une foi chaleureuse mais superficielle. Luc nous rappelle que recevoir Christ, c'est se soumettre à sa Seigneurie. Pleinement, se soumettre pleinement à sa Seigneurie. Siméon n'a pas connu Christ par une intuition humaine, mais c'est par l'œuvre de l'Esprit. Cela nous appelle à une humilité. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Notre foi est-elle nourrie par la parole et la prière? Posons-nous la question. Notre foi est-elle nourrie par la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est nourrie par la prière? Cherchons-nous la lumière de l'Esprit pour voir Christ clairement? Ou nous faisons uniquement semblant? Nous vivons une double vie qui est superficielle. Quelques applications pour nous. Premièrement, nous ne devons pas fuir la confrontation qu'apporte le Christ. Le Christ divise. Non parce qu'il est dur, mais parce qu'il est vrai. Il est la vérité. L'Évangile révèle nos cœurs. Dans Marc 1, verset 15, nous lisons, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acceptons-nous que Christ corrige, expose et transforme nos cœurs. Fuyons-nous la lumière ou est-ce que nous marchons vers elle? Est-ce que nous préférons marcher dans les ténèbres? Deuxième application, nous devons vivre une foi qui est persévérante et fidèle, même dans l'attente, même dans les difficultés, même dans les épreuves. Anne nous rappelle que la foi mûrit dans la durée. Elle persévère dans la prière, même lorsque les années passent. En 1 Corinthiens 15, verset 58, nous lisons « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Sommes-nous une église persévérant dans la prière? Valorisons-nous la fidélité silencieuse autant que l'activité qui est visible? Nous pouvons avoir plusieurs activités, mais est-ce que personnellement nous prenons ce temps avec notre Dieu? Est-ce que nous communions de façon constante avec lui? Troisième application, annonçons Christ après Noël dans notre quotidien. Anne parle à Jésus, à ceux qui attendent. Elle n'élabore pas une stratégie. Elle témoigne. Comme en Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En allant, c'est dans notre vie, dans notre quotidien que nous témoignons de Christ. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, dans nos familles. Frères et sœurs, ne laissons pas Noël se refermer sans que nos vies soient transformées. Accueillons le Christ non seulement dans nos chants, mais dans notre obéissance, dans notre humilité. Reconnaissons-le non seulement dans nos émotions, mais dans la foi, une foi qui persévère. Annonçons-le non seulement en paroles, mais par une vie qui est consacrée. Noël continue tant que Christ règne dans nos cœurs. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le don précieux de ton Fils. Seigneur, nous te prions de nous aider à vivre après Noël comme des disciples fidèles, obéissants, dépendants de toi, de ton esprit, transformés par ta vérité et zélés, Seigneur, pour annoncer ton salut. Seigneur, apprends-nous comme Siméon à vivre sous la conduite de ton esprit. Apprends-nous, Seigneur, comme Anne à parler de Jésus autour de nous. Éternel, apprends-nous comme Marie et Joseph à marcher humblement dans une obéissance quotidienne à ta loi. Que notre Église éternelle soit un peuple qui voit, qui adore et qui proclame Christ. Et que ta paix, celle qui a rempli le cœur de Siméon, remplisse aussi nos cœurs aujourd'hui. Merci pour tout. Merci pour Christ, mort pour nous. Lui qui a pris nos péchés sur lui. Et c'est en son nom que nous te prions. Qu'il règne pleinement dans nos vies. Aujourd'hui, et pour toujours. Amen.